Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka'ohanui.
Et bienvenue dans cette 47e émission,
édition 2023.
Après la création du protectorat de Tahiti,
la marine française se détache peu à peu des îles Marquises pour Tahiti qui en devient la capitale. En 1847, Tahuata est abandonnée et laissée à la charge de la mission catholique. En 1848, découragé, Mgr Rouchouze rentre en France. Il est remplacé par le père d'Ordillon, déjà sur place, nommé provicaire qui, grâce à son dynamisme, rappelez-vous que son prénom est Ildefonse, fera en sorte de gérer l'abandon par la marine française de Taiohae et de toutes les îles Marquises en décembre 1849. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En 1849, donc, le 28 février, lassé des guerres qui touchent Tahuata, le père d'Ordillon quitte temporairement l'île pour s'installer à Nukuhiva. En ce début d'année, il ne reste plus que 4 prêtres missionnaires aux Marquises. À l'époque, par mesure de sécurité, le commandant en particulier Nouri interdisait aux non-marquisiens de quitter Taiohae, prétextant de sa mission d'évangélisation qui ne pouvait s'effectuer sans s'exposer. Le père Ildefonse d'Ordillon, accompagné du père Dominique Fournon, sont les premiers missionnaires à s'aventurer seuls dans les autres vallées. Ils tentent d'abord de convaincre les chefs et distribuent des guimbardes qui font la joie des Enanes. Ce sont de petits instruments de musique composés d'une languette flexible fixée dans le cadre que l'index fait vibrer et dont le son est amplifié par la bouche par modulation. Dans son livre, le docteur Rollin est le seul de tous ceux que j'ai lus à nous dire que les Enana d'autrefois avaient un instrument de musique qui ressemblait à cette description. Il était composé d'un arc d'hibiscus, ha, sous-tendu par un boyau. On appliquait une extrémité entre les dents et l'on grattait la corde avec un bois, ce qui provoquait des vibrations modulées. On lui donnait le nom de Utete et aussi de Tioro ou de Titaapu et enfin de Tuihapa. Donc un objet qui porte 4 noms est forcément connu des Marquisiens.
D'ailleurs, on en retrouve une illustration à la page 43 du 3e tome des Marquisiens et leur art de Karl von den Steinen. Grâce à la légende, on apprend que l'instrument se nomme bien Utete, mais qu'il mesurait 1,47 m de longueur. Une taille bien différente donc des petites guimbardes métalliques distribuées par le père d'Ordillon et qui, elle, tenait dans la main.
Depuis le mois de mars, c'est le capitaine de frégate Charles Nouri qui occupe le poste de commandant particulier des îles Marquises. Il a été chargé d'organiser le départ des troupes et le déménagement du matériel vers Tahiti. Le capitaine Nouri est aussi un érudit qui fait dresser un bestiaire illustré de toute la faune terrestre et marine des Marquises, ouvrage redécouvert et réédité récemment. Il fait aussi recueillir une grande quantité de chants traditionnels, dont certains ont été publiés dans le livre de Dominique Pecheberti, Vie quotidienne aux îles Marquises. Le 2 décembre 1849, en présence de tous 16 officiers et des 3 chefs Temoana, Hopewehine et Ha'avao Nuiatea, il signe le procès-verbal d'évacuation des Marquises, dont je vous livre certains termes. Temoana reçoit la responsabilité de veiller sur le fort Colette, dont il reste quelques bâtiments non transportables. Il est aussi chargé du pavillon des officiers devenu siège de la subdivision et du magasin général devenu maison d'arrêt, d'une réserve de charbon destinée aux navires français de passage et de 2 chevaux qui restent sur place. 5 bœufs et vaches sont confiés à Hopewehine, tandis que Ha'avao Nuiatea est chargé de s'occuper de 3 moutons et de 3 ânes. L'hôtel du gouvernement, devenu résidence de l'administrateur, est laissé aux missionnaires avec ses dépendances à titre de prêt. Une disposition interdit aussi l'installation sur Nukuhiva de vagabonds et de déserteurs étrangers. Les derniers militaires français quittent Nukuhiva le 17 décembre.
C'est le premier abandon historique de l'autorité militaire qui durera 3 ans. À Tahuata, le bétail abandonné par les Européens en général et les Français en particulier s'élevait à 90 bovins et autant d'ovins, de moutons, en 1847. En 1849, le bétail est devenu si nombreux que la goélette Papeiti peut, outre l'approvisionnement de Taiohae, transporter aux îles de la Société une moyenne de 2 bœufs par mois, nous dit Max Radiguet. Au cours de l'année débutent de graves troubles entre Teihi et Taipi.
Devant ces troubles, le 28 mai 1850, un navire de guerre fait escale à Taiohae où on laisse un sous-lieutenant et 22 hommes qui investissent à nouveau le fort Collet.
Nous changeons d'année maintenant. Nous passons en 1850, en début d'année, suite au départ des troupes. Des troubles subviennent à Huapo et Nukuhiva, évidemment. À Taiohae, l'oncle de Te Moana, qu'on avait vu malade aux cérémonies funèbres de Niehitu en 1844, le chef Hopewehine est toujours vivant. Il assiste souvent à la messe et prend de l'ascendant sur Te Moana qui ne suit pas encore la religion catholique. Leur opposition sème le trouble dans l'île. Le 28 mai, après un rétablissement de l'ordre par un navire de passage, on réinstalle un poste militaire composé de 22 soldats commandés par un sous-lieutenant. Donc un an après le départ de la marine, on remet 22 soldats et un sous-lieutenant, mais c'est tout. Le 15 août, à Huapo, le père d'Ordillon baptise le grand prêtre Taua Huiputoka, ou bien Huiputoka, le Hakaiki Pepena et 8 autres personnes. Le 17 décembre à Taiohae se déroule la bénédiction de la chapelle de l'Immaculée à Patoa, en bas de Hikohei. Cette année-là, la fièvre de Californie fait des centaines de morts dans tout l'archipel. À Hivaoa, le capitaine Snow du schooner américain Jupiter fait enlever 5 femmes, filles de chef, dont une de 14 ans. Maltraitées pendant leur voyage jusqu'à Boston, on retrouve leurs traces à San Francisco sans connaître leur sort ultérieur. Jugé pour ses faits d'enlèvement l'année suivante, Snow sera laissé en liberté sous caution. Afin de trouver une solution aux différends entre les Teihi et Taipi, Te Moana convie un chef Taipi à une entrevue à laquelle ce dernier vient sans armes. Après avoir échangé quelques mots, Te Moana l'abat d'un coup de fusil au cri de « Je te tue au nom des Français ». Le sous-lieutenant commandant du fort Collette fait savoir aux Taipi que les Français ne sont en rien complices de cet odieux guet-apens. Cet épisode nous est raconté à la fois par Max Radiguet et Greg Denning. En 1851, à Paris, l'Assemblée législative vote l'établissement d'un lieu de déportation à Taiohae. Et le 10 juillet, sans connaître cette décision, les militaires abandonnent à nouveau le poste, le sous-lieutenant étant déjà parti le 28 mai. Cette année-là, le capitaine du navire américain William et Eliza est fait prisonnier par des Enaana. Il est libéré au terme de 2 jours contre une rançon de plusieurs barils de poudre. 1852 maintenant, en juin, avec à sa tête le commandant Ball,
B-O-2-L-E,
la garnison est rétablie avec l'arrivée de 3 déportés et leurs familles à bord de la Moselle. Ils sont enfermés dans ce qu'il reste du fort Collette et ils seront libérés en 1854. Comme en 1845, 2 blocos venus de France sur la Moselle sont installés sur une colline de Havao et sur une hauteur dominant Tuhiva, la colline de la Croix-Blanche. En plus d'une compagnie d'infanterie, le capitaine de frégate Ball dirige 10 ouvriers d'artillerie, 12 gendarmes, le tout appuyé par un navire stationnaire. Radiguet nous dit qu'on trace alors une route le long de la plage et vers les points fortifiés à l'entrée des vallées Hikuei et aussi Meao, résidence de Te Moana, car il y avait aussi un blocos au-dessus du Pai Pai Pikivehine, en haut de la terre Vihenua, où sont maintenant enterrés Te Moana, Vaikehu et le reste de leur famille. Comme je l'ai déjà dit, ce blocos était là pour protéger les intérêts de Te Moana et éventuellement interdire à des ennemis qui venaient du fond de la vallée l'accès à la mer. En août, des conflits éclatent entre les Teihi et les Taipi. Afin d'apaiser la situation, Ball entreprend une conciliation, mais des envoyés de Te Moana s'interposent et des insultes sont proférées envers la France. Le 2 septembre, le commandant Ball obtient la promesse de se faire livrer 20 porcs en réparation des injures. Le 4 septembre, Ball envoie chercher Te Moana qu'on trouve ivre. Ball le retient jusqu'au matin. Libéré, il promet de calmer les esprits et de livrer les porcs, mais il prétend aussi que ce sont les Enaana qui veulent la guerre et pas lui, ni sa femme, ni son clan. Dans un courrier à Tahiti où il prétend le contraire, Ball raconte comment le lendemain il attaque la vallée Meao en la faisant canonner depuis les corvettes Durance et Bucéphale ancrées dans la baie. Il réclame aussi des renforts. Après avoir fait signer à Te Moana une déclaration par laquelle ce dernier reconnaît sa défaite et lui dévolue toutes ses terres, il envoie Temoana et Vaikehu en captivité à Tahiti. Désavoué par le commissaire Page de Tahiti, Bol quittera son poste l'année suivante et Temoana ainsi que Vaikehu retrouveront rapidement leur île.
C'est à l'occasion de ce conflit que, faute d'autres documents antérieurs connus, le nom de Vaikehu, épouse de Temoana, entre dans l'histoire.
Au cours de l'année, le père d'Ordillon se plaint à ses supérieurs du nombre de maisons de prostitution qui jalonnent la route du bord de mer à Taiohae et demande à Temoana de les faire déplacer en des lieux écartés. Il se réjouit par ailleurs de voir détruits les idoles et le paganisme aussi bien à Nukuhiva qu'à Uopo. À Hivaoa, le capitaine du navire anglais Magdalena est assassiné par des Enama. En 1853, à Taiohae, le capitaine de frégate Lévesque remplace le commandant Bol. Son rapport fournit de précieux détails. La population de Nukuhiva est de 3150 habitants. Les missionnaires accomplissent une œuvre bienfaisante et ont de nombreux baptisés. Temoana collabore parfaitement avec les Français dont il reçoit une solde en compensation du droit d'ancrage qui lui revenait et qui est maintenant perçu par l'administration coloniale. Les chefs secondaires reçoivent aussi une solde. On construit une route menant au fond de la vallée de Havao. À 60 mètres environ, en amont de la résidence du gouverneur, on établit un pénitencier composé de 6 maisonnettes identiques dans un enclos facile à surveiller. 3 pour les déportés et leurs familles, 3 pour le lieutenant de gendarmerie et ses hommes. Avec un navire stationnaire dans la baie, 10 ouvriers d'artillerie, 12 gendarmes et une compagnie d'infanterie, en plus des déportés et de leurs familles, ce sont environ 300 Français qui réside alors à Nukuhiva. Allons à Fatuhiva maintenant, où en mars, le chef Matu'unui, un chef secondaire d'Omoa, se rend à Hawaï avec son gendre, matelot à bord du navire Tamerlan, capitaine Shockley. Devant le conseil de l'église évangélique hawaïenne, il demande pour son peuple des missionnaires et des fusils. Le 8 mai à Taiohae, c'est le baptême solennel de Takiehitu, chef de la vallée de Hikoe, ainsi que de tous ses sujets. C'est le déclenchement des conversions en masse sur Nukuhiva. C'était donc le 8 mai 1853. Toujours en mai, pour remplacer le commandant l'évêque, le commandant particulier Henri Jouan arrive à Taiohae, où il restera jusqu'en novembre 1856 en deux séjours. De ses écrits, il faut retenir plusieurs remarques. Les Enana installent des droits de douane sur tout ce qui sort des bateaux, sans se soucier de la législation française. Les objets artisanaux sont devenus rares et chers. Après en avoir vendu en quantité au début du contact, les ayant remplacés par des objets-outils plus modernes, les Enana n'en fabriquent plus et conservent précieusement les plus importants qui leur restent. Lance et casse-tête ou. Avec l'arrivée des cotonnades, à Nukuhiva, on ne fabrique plus de tapas. Qu'on troquait contre du curcuma, le ekamo a produit à Mu'ake. Si l'on fabrique encore des pirogues doubles dans le sud, au nord, elles sont remplacées par des baleinières souvent usagées, achetées aux navires de passage. Jouan dit aussi que la tradition du ha'aiko, échange de noms, est encore respectée. Il ajoute que la pratique du cannibalisme est indéniable, mais plus rare qu'on a pu le dire. Les Enana restent très discrets sur le sujet et en accusent plutôt les autres îles ou tribus. Il estime la population totale de l'archipel à 11 900 habitants, presque 12 000. Le 29 juin est un grand jour pour les catholiques de Taiohae. C'est la conversion au catholicisme et le baptême de Te Moana et de son épouse Vaikehu,
qui prennent respectivement les prénoms de Jules Charles Karoro et de Elisabeth Louise Françoise Erita Peta.
Un peu avant la chanson, nous avions vu que le commandant Ball avait envoyé en captivité Te Moana et Vaikehu après avoir fait signer au chef un acte de reddition dans lequel il lui donnait toutes ses terres. Monseigneur Dordillon n'était pas d'accord avec cette décision. Dès qu'il a pu le faire, il est descendu à Tahiti en bateau et il a plaidé la cause de Te Moana auprès du gouverneur Page, qui non plus n'était pas d'accord avec cette décision qui compliquait la relation des autorités françaises avec les Marquisiens. C'est pour le remercier d'être intervenu pour leur libération que Vaikehu et Te Moana ont finalement pris la décision de se faire baptiser avec les enfants de Te Moana.
Je remercie ici le père Paul le Jeune, archiviste, qui m'a permis d'obtenir une photocopie de
l'acte de baptême conservé à l'évêché de Taiohae, qui précise aussi que Te Moana est accompagné de deux de ses enfants, son fils Moanatini, qui est baptisé Stanislas Jules Charles Taniha, et sa fille
aveugle
Teiki Autini, baptisée Louise. Avec eux se trouvent encore deux très jeunes enfants parents de Te Moana. Un garçon de 5 ans, neveu de Te Moana appelé Iha et baptisé Jules Charles, ainsi qu'une petite fille de 3 ans appelée Maku'e'e et baptisée Elisabeth Louise Françoise.
Ils sont suivis du chef de la vallée Hoata et d'une soixantaine de leurs proches. Le reste du peuple suivra leur exemple. Les autorités locales ainsi que des officiels Enana de Uapo sont invités à un banquet Kainamao pour lequel 80 porcs sont passés au four.
Te Moana fait don à l'église catholique du Tohua Koika
Pikiohotoua Umaui,
non loin de chez lui. Site à la fois religieux et profane, autrefois très fréquenté, il est alors tombé en désuétude du fait de sa proximité d'avec la côte et de la trop grande fréquentation des étrangers Haoé. Ce vaste site abrite toujours la mission des îles Marquises. Peu de temps après son baptême, un fusil à la main et une médaille de la Sainte Vierge autour du cou, Te Moana part en guerre sainte contre les Taioa de Hakaui. Le 26 août à Fatuhiva, c'est le retour de Matu'unui qui était parti à Honolulu réclamer des missionnaires et des fusils, accompagné de Pua, un Hawaïen qui vivait dans l'île. En moins de deux mois, la Hawaiian Missionary Society, la Société Missionnaire de Hawaï, HMS, choisit les missionnaires hawaïens et publie un livre de lecture en langue marquisienne. Sous la responsabilité du pasteur Benjamin Parker, Matu'unui, accompagné d'un artisan nommé James Bricknell, embarque sur le royaliste, capitaine Harris, avec l'ensemble de la mission en direction de Fatuhiva. Ils débarquent à Omo, accompagné en outre des pasteurs James Kekela et de son épouse Naomi Kaenaokane, de Samuel Kaue Aloha, Kaaya Wahia, et des diacres Lota Kuaihelani et Haya Haiwi. Bien au fait de la présence française aux Marquises, les Américains s'abstiennent de fournir les fusils demandés par Matuunui. James Kekela et son épouse Naomi s'installeront à Hiva'oa dans la vallée de Puamau en 1856. Ils y séjourneront jusqu'à leur retour à Hawaï en 1899. Samuel Kawealoha et son épouse Kuaiawahia
s'installeront à Hanatekuu,
Hiva'oa, en 1856, qu'ils quitteront pour Hakanahi à Uapo en 1864, où ils vivront jusqu'à leur mort en 1909. Les autres couples séjournent plus ou moins longtemps à Fatuiva et les îles du Sud, avec une réussite plus ou moins évidente. Certains s'éloigneront de leur ministère pour s'adonner au commerce, ou bien l'abandonneront carrément pour suivre les mœurs du temps et du lieu. Au cours des trois premiers mois de leur mission, les Hawaïens rapportent de violents combats entre les vallées ennemies de Omoa et Hanawaave qui causent la mort de quatre Enata. Le capitaine Harris est assassiné à Hiva'oa par des Enata. Il sera enterré à Taiohae. Le 21 septembre à Taiohae, c'est le baptême solennel d'un chef de Hawao, de sa famille et de 19 autres personnes. Le 28 octobre, à la demande du Hakaiki de Omoa, Kahutuia, parent de Temoana et de deux autres chefs hostiles au projet de Matuunui, le père d'Ordillon envoie des prêtres pour contrecarrer le sacerdoce des protestants. Au terme de 2 ans, voyant que les Enata ne manifestent d'intérêt ni pour l'une ni pour l'autre religion, les catholiques se dirigent vers Hiva'oa. Chers amis, 1852 a été marqué par le retour de la marine à Taiohae et les difficultés entre le commandant Ball et Temoana. Nombreux sont encore ceux qui, à Taiohae, disent que Ball était amoureux de Vaikehu et la courtisait. Laissons la rumeur filer. 1853 a changé la donne religieuse en voyant le chef des Teihi et sa famille se faire baptiser, entraînant avec eux une grande partie de la population. Ne manquez pas la prochaine émission où nous verrons la situation se normaliser peu à peu. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci au groupe Takanini pour sa chanson Tamakerara,
enfant des Marakis, qui nous explique comment les Marquisiens qui n'ont pas de travail rémunéré se battent au jour le jour pour chercher la nourriture fournie par la nature afin de nourrir leur famille.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Paris. O Oaiho. No te ati e nata.